J'aimerais maintenant changer de registre un petit peu dans notre travail, parce que jusque-là, on a été dans ce que j'appellerais le parvis. C'est-à-dire, on a regardé tout ce qui était relié au salut par la foi en Jésus, comment est-ce que nous sommes sauvés par Jésus-Christ, et comment est-ce que nous répondons au salut qui nous est proposé. Maintenant, j'aimerais, pour reprendre ce qu'on a dit dans les études précédentes par rapport au sanctuaire, j'aimerais rentrer dans le lieu saint. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de choses que l'on vit et que l'on fait parce qu'on est sauvé en Jésus, parce qu'on est croyant. Ces choses, on ne les fait pas pour être sauvé, on les fait parce qu'on est sauvé. Et c'est la raison pour laquelle on a pris du temps pour regarder sous différents aspects la manière dont nous sommes sauvés, la manière dont Dieu nous propose d'être sauvés par son action à lui, par l'intermédiaire de ce que Jésus va faire et fait encore. Mais alors que nous sommes invités à répondre, nous sommes aussi invités à participer à ce plan du salut. On a pris plusieurs fois l'image du mariage. Se marier est une chose, rester marié en est une autre, et nous avons une part à accomplir. Comme dans le mariage, cette part ne peut pas être accomplie par un seul des deux. Il faut que les deux jouent leur rôle. Dieu joue le sien. Quel est mon rôle? Et vous vous souvenez, quand on a regardé le sanctuaire, on avait vu que le lieu saint devenait l'église. C'est ce lieu dans lequel je vais vivre la sanctification, que je vais vivre la transformation suite au salut, avec un certain nombre de choses à faire. Dans le parvis, il n'y avait rien à faire, il y avait à recevoir. Dans le lieu saint, il y a un certain nombre de choses à faire. Et on avait vu dans le sanctuaire trois éléments qui étaient la table des pains, l'autel des parfums et le chandelier. Et ces trois éléments étaient reliés à des pratiques très précises. L'étude de la parole de Dieu, la prière, le service chrétien. Maintenant, tous les autres éléments qui ont trait à la pratique, les choses que je fais ou que je ne fais pas, ce que je vis, mon mode de vie en tant que croyant, se situent dans la mentalité caractérisée par le lieu saint. C'est-à-dire, je le fais parce que je suis sauvé et non pas pour être sauvé. Alors j'aimerais maintenant rentrer dans cette partie-là, où on va regarder ensemble les outils que Dieu nous donne pour entretenir, développer, affermir, intensifier cette relation qu'on a créée dans le parvis. Ces outils sont des outils concrets, pratiques, ils représentent la base de notre vie chrétienne pratique qui va faire la différence avec ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Mais toutes ces choses ont une raison d'être dans le cadre de la vie chrétienne. Et par conséquent aussi de la vie chrétienne collective qui est l'Église. J'aimerais commencer aujourd'hui avec vous par l'Église, comprendre l'Église. Une des premières choses que je vais vivre en tant que chrétien, après avoir découvert les vérités bibliques, c'est vivre l'Église, vivre ma foi avec les autres. Dieu ne nous envoie pas tout seul dans la nature comme des orphelins, il nous met ensemble. C'est l'Église. Comment ça marche l'Église? Alors on va le regarder ensemble aujourd'hui. J'aimerais commencer par un texte qui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 2, au verset 47. Acte 2, c'est donc ce chapitre qui nous rapporte ce qui s'est passé au moment de la Pentecôte. Et à la fin du chapitre, il y a un verset de conclusion à ce qui s'est passé avant. Acte, chapitre 2, verset 47. Quelqu'un veut bien le lire?
Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
Merci. Le mot Église ne se trouve pas dans le texte, en réalité. Il est sous-entendu, le Seigneur ajoutait ceux qui étaient sauvés. À quoi est-ce qu'il les ajoutait? À ce qui va être l'Église. Et le mot Église est intéressant parce que dans notre Nouveau Testament, il est composé de deux mots. Le mot Ecclésia est formé de deux mots, appelé hors d'eux. Qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est l'ensemble de ceux qui ont été appelés hors du monde pour former une famille particulière. Appelé hors d'eux. Rien que ça, déjà, nous donne une idée un petit peu du sens de l'Église. Alors, la question, justement, elle va être de savoir, dans l'Église, comment est-ce que je vis ça, l'Église? Est-ce que je suis dans l'Église sans être sorti du monde? Déjà, on a là une idée de la mentalité de celui qui est dans l'Église et qui rejoint ce que Jésus disait dans Jean 17 dans sa prière: je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. C'est-à-dire être dans le monde, mais pas du monde. Et vous voyez déjà dès le départ que la situation de ceux qui sont dans l'Église n'est pas nécessairement une situation confortable. Dans ce sens-là, elle l'est à bien d'autres égards, mais ça souligne cette tension qu'il y a dans la vie du chrétien. Je n'appartiens pas à ce monde-ci, j'appartiens à autre chose. Pour reprendre un texte de l'Épître aux Hébreux, nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre, qui est une manière de dire que nous n'appartenons pas à ce monde, mais que nous appartenons à autre chose, qui va s'appeler le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Dans les Écritures, l'Église est comparée à trois choses différentes. Ces trois images, qui sont trois comparaisons, nous aident à comprendre l'Église en trois dimensions différentes. Est-ce que vous vous souvenez les trois images que la Bible emploie pour parler de l'Église? Pardon? L'épouse.
La maison de Dieu.
La maison, effectivement, le bâtiment. L'épouse, un bâtiment et le corps. Dans le Nouveau Testament en particulier, ces trois images sont employées pour désigner l'Église, l'épouse, un bâtiment et le corps humain. Alors on va regarder un ou deux textes en rapport avec ça pour voir ce que ces images essayent de transmettre comme message par rapport à l'Église. Éphésiens chapitre 5, les versets 22 à 24 pour commencer, et puis 30.
Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari.
Vous remarquez ici, l'apôtre Paul utilise l'image spirituelle pour en faire une application dans la vie familiale, mais vous remarquez que l'Église est présentée comme le corps de Christ. Et il en est le chef, la tête, autrement dit. Cette image-là nous donne une idée précisément de cohésion. La tête, dans notre corps humain, coordonne tous les mouvements et toutes les fonctions du corps. C'est l'idée qu'il y a un chef, il n'y en a pas 36, il y en a un, c'est Jésus, c'est le Christ, et c'est lui qui coordonne tous les éléments du corps. On verra d'autres textes tout à l'heure en rapport avec Christ, le chef de l'Église, mais dans cette notion de corps, il y a cette idée de cohésion, justement, d'ensemble cohérent qui fonctionne en harmonie. Ça, c'est une première idée qui est transmise par l'idée de corps. Une autre image, c'est l'image du bâtiment. On va lire un texte dans Éphésiens, chapitre 2, versets 19 à 22.
Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit.
Merci. Là, vous avez l'image du bâtiment, de l'Église, où nous sommes tous des pierres vivantes et on est amené à avoir chacun notre rôle là-dedans, à être des éléments constructeurs de l'Église, des éléments bâtisseurs de l'Église. Nous avons donc tous dans l'Église, qui qu'on soit, un rôle d'édification à jouer. L'image du bâtiment, c'est cette image d'avoir chacun un rôle à jouer, d'édification, de construction de l'Église, et d'avoir chacun notre place là-dedans. On a tous une place dans l'Église, et cette Église est un lieu de refuge. C'est un bâtiment dans lequel on rentre pour se mettre à l'abri. Vous voyez ces images relatives à l'Église? La troisième image relative à l'Église, elle est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19, versets 7 et 8.
Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes d'Es.
L'image qu'on a ici, c'est l'image de l'épouse. Et bien entendu, cette image souligne la relation d'amour parfait qui existe entre l'Église et le Christ, qui s'est donné lui-même pour elle dans le texte qu'on a vu tout à l'heure. c'est une relation d'amour. Ces éléments-là, liés à ces images, nous aident à comprendre comment l'Église vit dans l'interaction avec Dieu. Alors, il y a un élément en rapport avec l'Église qui est important à regarder, c'est qui est le chef de l'Église. Parce que dans la chrétienté, cette notion n'est pas très claire. Colossiens chapitre 1, verset 18. Verset 18, il est question là de Jésus, bien sûr, si quelqu'un veut le lire.
Il est la tête du corps qu'est l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier.
Merci. Il est dit au début, il est la tête du corps de l'Église. Christ est le chef de l'Église. Alors évidemment, on se dit, mais Jésus n'est pas présent parmi nous, donc comment est-ce qu'il peut être le chef de l'Église? Alors il peut être le chef de l'Église, en particulier par les éléments dont on a parlé tout à l'heure en lisant Éphésiens. Revenez à Éphésiens, si vous voulez bien, au chapitre 2, où il nous était dit, chapitre 2, verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Éphésiens 2, 20. Le fondement des apôtres et des prophètes, qu'est-ce que c'est? Enseignement des apôtres, Nouveau Testament. Enseignement des prophètes, l'Ancien Testament. Le fondement des apôtres et des prophètes, c'est le Nouveau et l'Ancien Testament. Mais tout cela repose sur la pierre angulaire qui est Jésus, le fondement. En réalité, le témoignage des apôtres et des prophètes est un témoignage par rapport à Jésus. Vous vous souvenez, Jésus disait, les Écritures rendent témoignage de moi. Il est la tête de l'Église, par la révélation qui est faite aux prophètes, par la révélation qui est faite aux apôtres, les instructions pour l'Église sont dans sa parole. L'Église a un chef, c'est le Christ, qui dirige son Église par les Écritures, par l'action de son Saint-Esprit, par les responsabilités qu'il confie aussi à ses serviteurs, mais il n'y a pas un chef humain de l'Église, parce que c'est Jésus qui l'a fondé, et un chef humain de l'Église serait déplacé, on en reparlera tout à l'heure en parlant du texte de Matthieu 16 qui nous aide à comprendre la véritable dynamique du leadership dans l'Église. On verra des textes tout à l'heure qui nous disent d'honorer les dirigeants de l'Église, mais ce ne sont jamais que des serviteurs de Dieu qui doivent accomplir ce que Dieu demande de faire et de rester dans le cadre de la volonté de Dieu prescrite dans les Écritures. Un autre passage qui est intéressant dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11, en rapport avec le chef de l'Église, justement. Ce serait intéressant qu'on lise le verset 10 et 11 pour avoir l'idée complète, si quelqu'un veut lire ça pour nous.
Conformément à la mission que Dieu dans sa grâce m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ.
Merci. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Qui est le chef de l'Église? Dieu lui-même, parce que c'est lui qui en est le fondement. C'est lui qui en est le créateur. C'est lui qui est l'époux. C'est lui qui est la tête du corps.
La pierre angulaire.
La pierre angulaire. Alors, il y a tout un tas d'éléments, d'images qui sont employés pour souligner le fait que le chef de l'Église, celui qui conduit l'Église, ça doit être Dieu. Et ceux qui sont serviteurs dans l'Église doivent pouvoir se souvenir constamment que leur service doit permettre à Dieu de conduire l'Église selon sa volonté et non pas la leur. Et c'est ce qui fait la valeur d'un vrai leader dans l'Église. C'est de permettre à Dieu de conduire son Église selon sa volonté à lui. D'où la nécessité de travailler à plusieurs et de ne pas avoir un seul qui dirige tout. Travailler en collégialité, travailler en groupe, en équipe, en collaboration. Parce que l'Église aujourd'hui, même si elle applique des principes démocratiques, elle n'est pas une démocratie. Il faut que l'Église reste une théocratie. Il faut qu'on prenne ce texte dans Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, on va d'abord lire les versets 13 à 16. C'est le contexte de ce qu'on va lire après.
Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. »
Dans ce passage, on a un événement très important dans la dynamique de Jésus avec ses disciples. Il va leur faire dire, leur faire exprimer une profession de foi. Jésus pousse les disciples à dire qui il est pour eux. Alors répéter ce que les autres disent, ce n'est pas difficile. Ils vont simplement répéter ce qu'ils ont entendu à droite, à gauche. Et il y a toutes sortes d'opinions là-dessus. Mais lui leur dit, moi je veux savoir ce que vous avez dans le cœur à mon sujet. Et Pierre, parlant au nom des autres, va faire une profession de foi claire en disant, tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie, le Fils du Dieu vivant. Pierre est en train ici de dire que Jésus, il est Dieu, incarné, venu pour sauver l'humanité. En réponse aux prophéties concernant le Messie. La profession de Pierre ici est très claire, est très, très audacieuse par rapport à ce que les contemporains de Jésus pouvaient dire. Maintenant, le texte continue dans la même perspective, les versets 17 à 20, si vous voulez bien.
Jésus reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ.
Jésus essaye de faire dire à ses disciples ce qu'il pense à son sujet concernant son identité. Les disciples sont clairs avec Pierre. Tu es Dieu incarné en réponse à la prophétie, venu pour sauver l'humanité. Maintenant, Jésus va dire à Pierre, c'est Dieu qui t'a inspiré cette réponse. Tu as ça par révélation, parce que les Écritures en parlent, parce que tu as compris que Jésus est l'accomplissement des prophéties. Et il va lui dire une phrase au verset 18, qui a été source de beaucoup de malentendus. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » En français, il y a le jeu de mots sur le mot « Pierre ». Tu es Pierre, c'est le prénom, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Alors, on joue sur le mot Pierre en disant, Jésus bâtit son Église sur Pierre. Mais le texte dans le Nouveau Testament ne nous permet pas de faire ce jeu de mots-là, parce que ce n'est pas les mêmes mots. Ce que Jésus dit, c'est, mais moi je te dis que tu es Pétros, et que sur ce Pétra, je bâtirai mon Église. Comme en français, Pierre, Pétros, c'est une pierre, un caillou. Mais Pétra, c'est autre chose. Pétra, c'est un rocher immense. D'ailleurs, dans le sud de la Palestine, il y a une ville qui s'appelle Pétra et qui a été construite dans un canyon creusé à même la falaise. Et elle porte ce nom, Pétra. C'est ça, Pétra. C'est une montagne, c'est un rocher. Alors que Pétros, c'est le caillou qu'on jette d'un coup de pied dans le chemin. Alors, dans ce texte, on a deux mots différents qui vont donc désigner deux choses différentes. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Église. Il n'y a pas un jeu de mots sur le mot Pierre, mais Jésus tendrait à dire, toi, tu es Pierre, c'est bien, mais c'est sur un rocher que je vais construire mon Église. Quel est ce rocher? On va regarder quelques textes dans les Écritures qui vont nous dire, dans la mentalité biblique, c'est quoi le rocher? C'est quoi le Pétra? Ésaïe chapitre 26, verset 4.
Placez votre confiance toujours en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher de toute éternité.
Voilà. Car l'Éternel est le rocher des siècles, littéralement. Deutéronome chapitre 32, versets 3 et 4, si vous voulez bien.
Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes.
Merci. Il est le rocher. Rendez gloire à notre Dieu. Le rocher dans la mentalité biblique, c'est Jésus. On peut en lire un autre, c'est 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, on va lire les versets 1 à 4.
Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ.
Dans l'Ancien Testament, quand on parle de Dieu, quand on parle de l'Éternel, c'est un seul Dieu. Mais qui est là derrière?
Jésus.
Quand Josué est prêt à prendre Jéricho et qu'il rencontre un soldat en armes et qui lui dit « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant », c'est qui? C'est Jésus. Quand Gédéon est en train de battre son blé et qu'il y a l'ange de l'Éternel qui vient le voir et que Gédéon l'adore, c'est qui vient? C'est Jésus. Le Fils est celui qui est l'agent du salut de l'humanité et de contact avec l'humanité, parce que c'est lui qui va être le sauveur de l'humanité, c'est lui qui va prendre l'humanité comme deuxième nature et qui va la garder pour le reste de l'éternité. Les liens entre l'ancien et le nouveau qui existent me font dire que chaque fois qu'il y a une interaction directe de la divinité avec l'humanité, que ce soit avant l'incarnation ou après, je pense qu'il s'agit de celui qui un jour s'incarne sous le nom de Jésus. Ces textes qu'on a lus étaient destinés à montrer que dans la mentalité biblique, le rocher, c'est Jésus, c'est Christ, c'est Dieu. Et lorsque Jésus s'adresse à Pierre et qu'il lui dit « Sur ce roc, sur ce pétra, je construirai mon église », Jésus dit « Le roc, c'est moi », selon les références de l'Ancien Testament. Jésus ne fonde pas son église sur un homme, il fonde son église sur lui-même, parce qu'il est le Sauveur. Comment voulez-vous que Jésus fonde son église sur un gars comme Pierre, qui est capable de le renier, mais qui s'en repent, et qui est un être humain qui commet des fautes comme tout le monde? Seulement maintenant, le texte continue. Et il lui dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce pétra, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Verset 19. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Quand on lit ce texte, on a l'impression, en lisant le texte, que lorsque Pierre décide quelque chose, Dieu dit « Amen ». Quand Pierre décide de quelque chose de positif par rapport à quelqu'un qu'il va lier au royaume des cieux, décider qu'il est sauvé par exemple, Dieu dit « Ok ». Et quand Pierre dit « Tu es délié du royaume des cieux, donc tu es perdu », Dieu dit « Ok ». C'est ce que le texte nous dit là. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce texte tel qu'on le lit nous pose un problème parce qu'on a l'impression que Dieu est soumis aux décisions de Pierre. Le texte qui est là dit exactement ceci. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié dans les cieux. Le futur antérieur, en français, a une valeur de passé. Des choses qui sont retournées dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand Pierre décide quelque chose sur la terre, c'est une décision qui a déjà été prise dans les cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié dans les cieux, sous-entendu avant. Et ce que tu délieras sur la terre aura été délié dans les cieux, sous-entendu avant, antérieurement. Ce que Jésus est en train de dire, c'est « Pierre, en tant que leader de l'Église, quand tu prendras une décision dans l'Église, veille bien à ce que ta décision soit conforme à la volonté de Dieu à ce sujet-là. » Donc Pierre est invité par Jésus à prendre une décision qui soit en harmonie avec la volonté de Dieu. Un dirigeant d'Église doit comprendre son rôle comme étant facilitateur de ce que Dieu veut faire dans son Église. Je te donnerai les clés du royaume. Jésus est en train de dire « Je te donnerai les clés qui permettent aux hommes d'être sauvés. » Les vérités bibliques que Pierre est destiné à proclamer. Ça ne donne pas à Pierre une autorité sur Dieu, ça donne à Dieu autorité sur Pierre. Ce que Jésus dit ici, il ne le dit pas à Pierre. Si vous tournez une page dans Matthieu au chapitre 18, vous vous rendez compte que Jésus répète exactement la même chose, cette fois-ci à tous les disciples. Matthieu chapitre 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ici, on a la même chose, on a un futur antérieur que l'on devrait lire de la façon suivante. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié dans le ciel, sous-entendu antérieurement. J'aimerais regarder maintenant avec vous un exemple de ce qu'on vient de lire, c'est-à-dire dans le livre des Actes, il y a la mise en application de ce principe-là selon les principes bibliques, c'est-à-dire dans le bon ordre. Regardez dans Actes 13, versets 1 à 3. Actes 13, versets 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaëm qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alors, on a ici le processus dont on vient de parler très clairement expliqué. Il y a une église dans laquelle il y a un certain nombre de gens qui ont des ministères différents. Certains enseignent, certains ont des ministères prophétiques, et il nous est dit, pendant qu'ils étaient actifs dans leur ministère, le Saint-Esprit dit, ne me demandez pas comment, c'est pas précisé dans le texte, mais il y a plusieurs possibilités. Ils ont pu entendre une voix lors d'une assemblée qui leur a dit, faites ceci ou faites cela. Ils ont pu, tous ensemble, se sentir inspirés pour la même chose, en se disant, si on est tous inspirés pour la même chose en même temps, c'est le Saint-Esprit qui agit parmi nous. Il se peut qu'il y en ait un d'entre eux qui ait eu une vision dans laquelle Dieu lui a dit « Vous allez faire ceci ou cela ». Il y a plusieurs possibilités. En tout cas, pour eux, il n'y avait aucun doute que Dieu leur a parlé, peu importe le moyen par lequel il s'y est pris. Le Saint-Esprit dit, qu'est-ce qu'il a dit ? « Mettez-moi à part Barnabas et Saul parce que je les ai appelés à un certain ministère. » Une fois qu'ils ont reçu cette indication de Dieu, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prient, ils jeûnent, ils leur imposent les mains et les laissent partir. C'est-à-dire que l'Église va recevoir la volonté de Dieu qui leur est exprimée d'une façon ou d'une autre. Ils vont imposer les mains à ces gens-là en leur disant « Nous reconnaissons l'appel de Dieu et nous te donnons en tant qu'Église une autorité par délégation pour remplir ce ministère » et ils les envoient dans leur ministère. Dieu a parlé d'abord, l'Église a accepté et entériné cette décision. Elle a exécuté. Donc l'Église est invitée à jeûner et à prier pour comprendre la volonté de Dieu et ne pas se tromper. Donc on a ici dans ce texte la mise en application de ce qu'on a vu dans Matthieu 16, dans le bon ordre. Et dans l'Église, c'est ainsi que la chose doit se mettre en place. Parce que c'est Dieu qui décide d'abord, c'est Dieu qui fait connaître sa volonté, et moi je suis appelé à l'accomplir, à la comprendre.
Mais c'est pas évident de savoir que le Saint-Esprit, c'est vraiment ça là, que le Saint-Esprit veut.
L'apôtre Paul dit de ne pas imposer les mains avec précipitation. Mais on a un exemple biblique de ça. Vous vous souvenez de Jean-Marc ? Je suis dans Actes, chapitre 15. Je vous lis à partir du verset 36. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état elles sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparèrent l'un de l'autre et Barnabas prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit accompagné par les frères et la grâce du Seigneur. Alors, il y a un problème. Ce Jean-Marc-là les avait accompagnés et puis les avait laissés tomber en route parce qu'ils s'étaient découragés. Paul, ça ne lui avait pas convenu. Si tu te décourages, retourne chez ta mère. Et c'est pour ça que Barnabas, qui est un homme beaucoup plus doux, dit non, non, il faut le prendre avec pour l'encourager. Et Paul lui, non, rien à faire, je ne veux pas savoir, moi je prends quelqu'un qui tient la route, pas un gars qui traîne derrière, etc. Alors maintenant, regardez dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4, au moment où Paul écrit la deuxième épître à Timothée, il est en prison. Et au verset 9, il est dit, 2 Timothée 4, verset 9, « Viens ou plutôt vers moi, dit-il à Timothée, car Démas m'a abandonné pour amour pour le siècle présent. Crescence est allée en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Autrement dit, des années plus tard, Paul, qui écrit à Timothée, lui dit « Prends avec toi Marc, il m'est utile pour le ministère. » Ça fait son chemin. Paul s'est rendu compte qu'il avait été beaucoup trop raide avec lui. C'est un garçon qui n'avait pas le tempérament de Paul, bulldozer par exemple, mais qui était capable de remplir le ministère auquel Dieu l'avait appelé. Et Paul finalement s'en est rendu compte. Il a vu qu'il avait réellement été appelé au ministère et il dit à Timothée, amène-le, il est utile pour le ministère. Je veux dire par là qu'il faudra du temps pour voir si quelqu'un est réellement appelé par Dieu à un ministère, à ce ministère-là ou à un autre. Mais le temps, l'expérience, la confiance qu'on peut donner à quelqu'un pour essayer sa tâche nous montrera si vraiment il a été appelé et si vraiment le Dieu lui a donné les outils pour accomplir la tâche à laquelle il a été appelé. Et c'est nécessaire aussi parce que il faut que l'Église puisse réaliser ça aussi pour pouvoir lui déléguer son autorité, sa responsabilité et sa confiance.
Est-ce que l'Église peut se tromper ?
Oui. Parce que l'Église est humaine. Mais Dieu a compassion de son Église et il va revenir à la charge. Mais l'Église, lorsqu'elle est sincère, lorsqu'elle est attachée à la parole de Dieu et qu'elle est en recherche de la volonté de Dieu dans l'esprit de la prière et du jeûne, aura sa réponse de la part de Dieu. Je suis autrement dit en train de dire que dans Matthieu chapitre 16, Jésus n'est pas en train de donner à Pierre une autorité pour diriger l'Église. Jésus n'est pas en train de dire à Pierre ce que tu décides, Dieu va l'accepter parce que c'est toi qui as décidé. Jésus est en train de dire à Pierre, tu n'es que Pierre, je construirai mon Église sur ce rocher qui est Dieu lui-même, le fait qu'il est lui, de nature divine, venu pour sauver l'humanité, et que le pouvoir que Pierre et les autres serviteurs de Dieu dans l'avenir auront, n'est jamais qu'un pouvoir de mettre en place la volonté de Dieu au sein de l'Église, d'être des facilitateurs de l'accomplissement de la volonté de Dieu au sein de l'Église. Cherche donc bien à la comprendre pour être sûr de ne pas te tromper. Maintenant, j'aimerais voir cette question, comment rentre-t-on dans l'Église? On va voir un texte dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 et 13.
Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d'organes. En tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs, non-juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons reçu à boire.
Merci. On avait parlé au début des images qui sont employées dans la Bible pour désigner l'Église. On avait parlé du corps humain avec plusieurs membres, on avait parlé de l'épouse, on avait parlé d'un bâtiment, les pierres vivantes. Toutes des images qui soulignent des aspects différents de ce qu'est l'Église. Et ici, on reprend cette même image et il est dit « Nous avons en effet tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » C'est donc par le baptême que l'on est greffé au corps de Christ, qui est l'Église. C'est le baptême qui est l'entrée dans l'Église.
Mais pourquoi vous dire que le baptême fait qu'on rentre dans l'Église? Exemple, je me fais baptiser à l'Église baptiste. Alors, le baptême ne fait pas que je suis membre nécessairement de l'Église baptiste?
Oui. Par exemple, dans Acte 8, on a Philippe qui va baptiser l'Éthiopien. Et lorsque Philippe s'apprête à baptiser l'Éthiopien, parce qu'il a passé tout un long moment à lui expliquer les prophéties qui concernent Jésus, il lui demande une profession de foi. Crois-tu que Jésus Ce qui veut dire qu'avec le baptême, il y a quelque chose qui s'appelle la profession de foi. Alors, c'est vrai que le baptême nous lie d'abord à Christ, dans le sens où le baptême, c'est comme un mariage avec Christ, c'est une alliance qui est faite avec Christ que je reçois comme mon sauveur. Dans la mesure où avec le baptême, il y a la profession de foi, cette profession de foi va me lier à l'Église qui professe ce que contient cette profession de foi. Le baptême, c'est une alliance avec Christ. Je reçois Christ comme mon sauveur personnel. Mais à partir du moment où je reçois Christ comme mon sauveur personnel, le texte me dit que Christ va m'attacher à un corps qui est l'Église. Et maintenant, Denise me dit, mais quelle Église ? La profession de foi que je fais au moment de mon baptême, c'est une profession de foi dans laquelle je vais reconnaître, voilà ce que je comprends comme étant l'enseignement biblique auquel je crois. D'un côté, le baptême va me lier à Christ parce que je fais une alliance avec le Christ en le recevant comme mon sauveur personnel. Mais d'un autre côté, cette profession de foi va me lier à l'Église qui professe ce que contient cette profession de foi. Je continue mon illustration. Cette personne qui a été baptisée dans l'Église baptiste a étudié la parole de Dieu un certain temps, elle a compris un certain nombre de choses relatives au salut par la foi, et ce qu'elle a compris, elle l'a accepté. Elle est baptisée dans l'Église baptiste. Elle y vit un certain temps, elle se rend compte que la Bible est bien plus large que ce qu'elle a reçu, et elle veut étudier plus loin. Elle tombe, par exemple, sur un adventiste qui commence à lui parler du sabbat, qui commence à lui parler de l'état des morts, qui lui parle d'un certain nombre de choses. Et cette personne dit « Ah, mais moi, j'ai jamais entendu parler de ça. » Il y a un développement qui se fait là. Et cette personne dit « Mais oui, mais moi, dans ce cas-là, je me sens beaucoup plus proche de ce que l'Église adventiste enseigne, parce que j'y retrouve les Écritures, que ce que l'Église que je connaissais avant enseigne. » Mais cette personne a déjà été baptisée du baptême biblique. Donc elle ne va pas être rebaptisée. Elle a reçu le baptême biblique. On va simplement dire à cette personne, dans ce cas-là, vous allez être reçu dans l'Église avec une profession de foi qui sera un petit peu différente de celle que vous avez fait la dernière fois parce qu'elle va être plus large, plus étendue, elle va convenir à ce que vous trouvez dans les Écritures. Et cette profession de foi va vous lier cette fois-ci à l'Église adventiste qui professe ce que cette profession de foi contient. Mais cette personne ne va pas être rebaptisée. Donc l'entrée dans l'Église se fait par l'expérience du baptême et bien entendu tout ce qui va avec le baptême et qu'on a déjà regardé en partie avec ça. Ce que je voulais vous mentionner maintenant, c'est que l'Église est présentée dans les Écritures comme un bâtiment, comme un corps, et il y a par conséquent une organisation, une structure dans l'Église. Regardez Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. Éphésiens 2, 19 à 22.
Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit.
Merci. Vous remarquez, l'Église dont il est question ici, il nous est dit qu'elle est bien, c'est un édifice bien coordonné qui s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. L'Église a donc une structure, il y a une coordination, il y a une organisation. Ce n'est pas laissé au hasard. Un autre passage dans Hébreux chapitre 13 donne là une invitation qui est malgré tout très claire et qui est à remettre dans le contexte de ce qu'on avait vu la dernière fois et de ce dont on a parlé par rapport au conducteur de l'Église. Hébreux chapitre 13, verset 17.
Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage.
Merci. Ici, on a une invitation à collaborer avec ceux qui ont un ministère ou une responsabilité dans l'Église et de ne pas considérer, comme on arrive parfois à le faire dans d'autres domaines, le responsable, c'est celui sur lequel on va pouvoir tirer. On va être responsable de tout ce qui va de travers. On est ici en train d'avancer dans l'Église de Dieu et il dit, voilà, obéissez à vos conducteurs, ayez aussi pour eux du respect parce qu'on travaille ensemble. C'est l'idée de collaboration. Dans 1 Corinthiens 14, on a là une situation difficile dans l'église de Corinthe. On ne va pas parler aujourd'hui de cette situation-là en particulier, mais de la conclusion que l'apôtre Paul tire de ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Dieu veut de l'organisation. Et quand vous regardez par exemple les textes prophétiques dans Apocalypse ou dans Daniel qui parlent de ce qui se passe dans le ciel, vous vous rendez compte que c'est extrêmement structuré les choses dans le ciel. C'est organisé. Chacun a son rôle à jouer. Et dans le royaume de Dieu, si je peux m'exprimer comme ça, on se rend compte au travers de ce que les prophètes voient que tout est structuré, organisé et bien en place. L'Église doit aussi refléter cette mentalité d'ordre-là. Ça va se faire par les responsables qui vont être choisis. Regardez dans Tite, par exemple, au chapitre 1. Épître de Paul à Tite. Finalement, l'apôtre Paul, qui allait d'église en église, envoyait derrière lui des pasteurs, des bergers, lui qui était missionnaire par nature et par vocation. Les pasteurs passaient derrière lui pour structurer l'église, enseigner l'église, affermir dans les enseignements des Écritures. Et on a ici un exemple qui nous est donné. Tite, chapitre 1, verset 5.
« Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. »
Vous voyez que là, l'apôtre Paul encourage le pasteur local à organiser l'Église, faciliter l'établissement d'anciens, de pasteurs locaux, de façon à ce que lui puisse aussi aller ailleurs et qu'il y ait des gens responsables, formés, qui puissent continuer sa tâche au niveau local. Donc l'Église est organisée, l'Église est structurée, l'Église a des responsables que l'Église se choisit et qui accomplissent leur ministère par délégation par rapport à l'Église qui les met à part pour un certain ministère. Maintenant, j'aimerais prendre une parabole avec vous qui est dans l'évangile de Luc au chapitre 14 et qui me paraît une parabole très éclairante sur l'Église. C'est la parabole du banquet. On ne va pas la lire, je vais juste vous la raconter. Vous pourrez la relire si vous voulez. C'est un homme qui prévoit un grand banquet, qui invite des gens à l'avance et lorsque le banquet est prêt, il les appelle. Il envoie ses serviteurs et puis les serviteurs rencontrent ces gens. Il y en a un qui dit « Ah écoute, non, moi je ne peux pas venir, j'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir ». L'autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs, je ne peux pas venir. » Le troisième dit « Ah, écoute, je me marie, désolé, je ne viendrai pas. » Et le serviteur apporte tout ça au maître, furieux, qui dit « Allez le long des haies, allez partout, ramassez tous les boiteux, les infirmes que vous trouvez, ramenez-les dans ma salle du festin, elle sera pleine. Tous ceux qui ont été invités ne goûteront de rien de mon festin. » Entendez par là une parabole que Jésus raconte dans son temps et qui déborde largement son temps. Ceux qui ont été invités en premier lieu, ce sont les Juifs qui ont reçu les prophètes, qui ont reçu l'enseignement des prophètes, qui auraient dû comprendre ce que Jésus venait faire et qui étaient invités à le recevoir. Quand Jésus vient, c'est le contraire qui se passe. Jésus se fait rejeter. Par conséquent, Dieu va aller chercher tous ceux qui sont prêts à entrer et tous ces infirmes, ces estropiés, ces aveugles et ces boiteux sont tous les autres, entendez par là les non-Juifs, qui vont s'ouvrir à l'Évangile et qui vont accepter Jésus comme leur sauveur. Maintenant, on peut aller plus loin dans cette parabole et y voir aussi une parabole sur l'Église. La maison dans laquelle sont invités tous ces gens, c'est l'Église. Qui va venir dans l'Église? L'Église va être composée de boiteux, de pauvres, d'infirmes, d'aveugles, etc. Dans ce cas-là, je comprends l'Église comme étant un hôpital où viennent des pécheurs qui veulent tous guérir de cette maladie du péché sous les soins du grand médecin qu'est Jésus, mais qui vont guérir à une rapidité différente, d'une manière différente. Tous ne sont pas victimes du péché de la même manière. Certains en subissent des conséquences beaucoup plus graves que d'autres. Mais on est tous dans l'Église, ayant accepté que Jésus soit notre médecin, en recherche d'une guérison et d'une transformation que lui seul peut nous donner, mais pas nécessairement à la même vitesse. Ce qui veut dire que dans l'Église, on va trouver des gens qui sont très avancés dans leur guérison, et on va trouver d'autres qui le sont à peine. On va trouver dans l'Église des gens qui sont prêts à prendre les médicaments que le Seigneur donne, et d'autres qui sont rebelles et qui refusent de prendre les médicaments que Dieu leur donne, et qui vont avoir du mal à guérir de ce problème du péché. L'Église n'est pas un club de saints. L'Église, c'est un hôpital plein de pécheurs. Ce sont tous des gens comme moi qui sont en route vers la guérison. Je ne dois donc pas avoir sur l'Église des attentes tout à fait irréelles de penser que c'est un club de saints et que pour y rentrer, il faut que je sois un saint. Parce que ce n'est pas le cas. Je ne peux pas non plus avoir des attentes irréalistes en pensant que ces gens-là sont des gens qui vont constamment me donner l'image parfaite de ce que le Christ attend d'un croyant. L'Église, c'est cette grande famille que le Christ a créée, dans laquelle il rassemble tous ceux qui le reconnaissent comme leur sauveur et qui veulent être sauvés par lui, et guéris par lui, et transformés par lui. Je n'attends pas donc à avoir dans l'Église des gens parfaits. Parce que si c'était des gens parfaits, je ne pourrais jamais y rentrer, parce que moi je ne le suis pas. Et si j'y rentrais, elle ne serait plus parfaite parce que j'y suis. Donc l'Église, c'est ce groupe de gens qui a accepté l'enseignement biblique que j'ai découvert aussi et qui sont comme moi en marche dans le processus qu'on appelle la sanctification, la guérison, la transformation et le développement d'une vie chrétienne. L'Église est en marche. Et je me rends compte en lisant les Écritures combien l'Église est elle-même reprise par Dieu. Quand vous lisez les premiers chapitres du livre de l'Apocalypse, par exemple, où vous avez 7 lettres écrites aux églises, Jésus est très dur avec son église, parce que l'église a besoin d'être reprise sur un tas de choses. Et la dernière église, celle qui est là au moment où Jésus revient, c'est une église qui est présentée comme étant tiède et orgueilleuse. Il dit « Je n'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut. » Et Jésus lui dit « Tu es pauvre, misérable, aveugle et nu, et tu t'en rends même pas compte. Tu as des grands besoins. Réveille-toi, secoue-toi. » Donc c'est dire à quel point Dieu n'est pas dupe de la situation de l'Église et nous ne devons pas l'être non plus. Elle est à la mesure aussi de nos faiblesses et du chemin que nous avons encore à parcourir. Je vais avancer rapidement là-dessus. J'ai ici quelques rôles de l'Église que j'aimerais voir avec vous. Tout d'abord, l'Église a une mission. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, c'est ce qu'on appelle le mandat missionnaire qui est donné par Jésus au moment où il remonte au ciel. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous remarquez dans ce passage que l'enseignement n'est pas simplement l'enseignement d'une doctrine, l'enseignement d'une connaissance. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement de l'Église, c'est aussi un enseignement très pratique d'une vie chrétienne pratique. Ça fait partie de ce que l'Église a à faire. Non seulement enseigner la vérité biblique, mais d'enseigner ce que cette vérité biblique produit dans ma vie, comme transformation, comme changement d'habitude. C'est ce que l'Église a aussi à faire. Et vous remarquez, elle n'est pas destinée à faire des membres, elle est destinée à faire des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. J'entends par disciple un membre actif, pas quelqu'un qui vient chauffer les bancs. J'entends par là quelqu'un qui est dans cette mentalité du disciple qui suit le maître et qui invite les autres à le suivre aussi. Quelqu'un qui est chargé de ce sacerdoce universel et qui va transmettre aux autres, donner son témoignage pour que d'autres puissent aussi jouir du salut. Premier rôle de l'Église, répandre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Un deuxième rôle de l'Église est mentionné dans Hébreux chapitre 10, versets 23 à 25. Retenons fermement la profession de notre foi, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas nos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous remarquez ici, il est dit « veillons les uns sur les autres », il n'est pas dit « surveillons-nous les uns les autres ». Vous voyez qu'il y a là une responsabilité collective. On est amené à constituer un corps. Parce qu'ensemble, on est plus fort. On est responsable les uns des autres, il y a une responsabilité réciproque pour pouvoir former un corps plus fort pour accomplir la mission dont on parlait tout à l'heure. Un autre rôle de l'Église est mentionné dans 1 Timothée 3, verset 15. 1 Timothée 3, verset 15. On va lire peut-être dès le verset 14 pour avoir la phrase entière. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire que la compréhension de la vérité biblique ne repose pas sur les épaules d'un seul individu. C'est l'Église qui va étudier la parole de Dieu, la comprendre et en être le garant. Et ça, c'est important, pour autant que ce rôle-là n'est pas devenu un rôle d'abus. Si quelqu'un arrive en disant n'importe quoi qui n'est pas biblique, il faut que l'Église puisse dire « Écoute, ce que tu racontes ne correspond pas aux Écritures. » Ce n'est pas parce que tel pasteur l'a dit ou parce que tel individu a décidé que c'était comme ça, mais c'est parce que nous tous ensemble avons considéré que tel enseignement est biblique et que par conséquent, nous reconnaissons cet enseignement-là comme étant le reflet de la parole de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que l'Église, en tant qu'Église, est la colonne de la vérité. Elle la préserve, elle la défend, elle la propage. La vérité biblique s'appuie sur le témoignage de l'Église dans sa totalité. Et ceux que l'Église choisit comme responsables ont le devoir de transmettre ce que l'Église a reconnu comme étant véritablement biblique, conforme à l'enseignement des Saintes Écritures. Un autre rôle de l'Église est mentionné dans le livre des Actes, au chapitre 14. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure dans Actes 13. Versets 2 et 3, on ne va pas relire ce texte. Il était question de ceux qui sont appelés par Dieu et qui reçoivent la consécration de l'Église. On va regarder un autre texte qui va dans le même sens, dans le livre des Actes, au chapitre 14. À partir du verset 21, « Ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils le recommandèrent au Seigneur. Donc c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont, dans les églises, désigner des gens responsables. Ils vont les consacrer, et ça c'est de la part de l'église. C'est l'église qui va choisir les responsables parce qu'elle reconnaît qu'ils ont été appelés à ce ministère-là. Donc l'église est destinée à reconnaître ce à quoi Dieu a appelé certains individus pour remplir certaines tâches, certains ministères ou certaines responsabilités. Ceux qui ont une responsabilité qui leur est confiée de la part de l'Église en reconnaissance de ce que Dieu leur demande de faire, mais ils n'ont pas un rôle qui se substitue à la conscience des autres. Ce sont des leaders. C'est quelqu'un qui passe devant, qui monte le chemin et qui motive les autres à aller dans la bonne direction. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va se substituer à la conscience d'un autre. L'Église a le pouvoir de dire à quelqu'un, à un de ses membres, « Tu ne peux plus être membre parce que ta vie ne correspond plus à ta profession de foi. Tu es complètement inconséquent dans ce que tu vis. » Donc, d'une part, toi-même te sépares de la famille. Et d'un autre côté, tu rends un mauvais témoignage de ce que la famille veut transmettre autour d'elle. Donc, l'Église a le pouvoir de dire à quelqu'un, « Tu ne peux plus être membre de la famille, à moins que... tu ne te repentes, que tu ne te convertisses, que tu changes de vie. » Mais ce n'est pas le pouvoir d'un individu de faire ça. C'est l'Église en sa totalité qui se prononce de cette façon-là. Je voudrais en regarder un dernier, bien qu'on pourrait s'étendre là-dessus, dans Éphésiens 4. On va lire à partir du verset 11.
« C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres comme encore comme pasteurs ou enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du cœur du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ.
Merci. Vous avez remarqué dans ce passage, il nous est dit que le Seigneur a fait des dons, il a appelé les uns à remplir différents ministères, certains apôtres, certains prophètes, certains évangélistes, pasteurs ou enseignants, peu importe, mais l'objectif est clair. Dans le texte ici, dans le second, il est dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'édification du corps de Christ. Il y a donc deux dimensions qui sont là développées, l'édification du corps de Christ du point de vue numérique, aussi, c'est-à-dire amener d'autres à accepter Jésus comme leur sauveur, mais aussi le perfectionnement des saints, le développement de la vie spirituelle de ceux qui sont dans l'Église, jusqu'à ce, comme dit le texte, que nous arrivions à cette maturité, à cet état d'homme fait, mature dans leur pratique chrétienne. L'Église est donc ce lieu où l'on va exercer les dons que l'on a reçus pour faire grandir l'Église en nombre et en qualité de foi. On pourrait parler encore de l'Église, je crois qu'on a fait l'essentiel de ce qui est important par rapport à l'Église. On va prier ensemble, si vous voulez bien. Notre Dieu, notre Père, ce soir nous voulons te remercier de ce que dans ta parole tu nous annonces, que tu veux nous rassembler dans une famille qui fait le tour du monde, une famille qui attend ton retour, une famille qui aime ta parole, qui veut la vivre et qui s'attache à Jésus comme son sauveur personnel. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous donnes de vivre ensemble notre expérience chrétienne, nous soutenant les uns les autres, nous encourageant les uns les autres, nous fortifiant dans la persévérance à bien faire. Nous te remercions, Seigneur, pour cette grâce. Veuille trouver en chacun d'entre nous, Seigneur, des pierres vivantes dans ton Église, de façon à ce que nous puissions mettre au service de ton œuvre les talents, les forces, les moyens que tu nous as donnés, parce que finalement, l'essentiel se trouve là. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce de vivre dans cette famille, dans la paix, dans la joie, en attendant le retour de l'époux qui vient bientôt. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.